J'ai relu un peu tout ce qui, des choses qui concernent Pierre, l'apôtre Pierre. Et cette nuit, je me suis réveillé, je ne sais pas à quelle heure, mais ça devait être en plein milieu de la nuit, avec cette histoire. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, quel est le passage qui fait que les apôtres et les disciples vont basculer et fuir? Il y a un passage quand même bien particulier où les apôtres vont se carapater là, et ils ne vont pas rester jusqu'au bout. Est-ce que vous auriez des idées là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'en aller? Qu'ils ne seront pas là à la croix? Oui.
La résistance de Jésus, je ne sais même
pas. Et pourquoi? Pourquoi? Ils prennent peur. Vous pensez que c'est ça? C'est parce qu'ils prennent peur. Non, je vais le tenir, c'est plus simple. Vous pensez que c'est la peur qui fait qu'ils ils s'enfuient?
Ils se sont trompés.
Parce qu'ils se sont trompés.
La déception.
La déception, mais pourquoi ils sont déçus?
Parce que ça correspond
devant
pas.
Jésus. Oui, devant Jésus. Parce que
ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient espéré ou compris.
Oui, mais vous voyez, quand on, si on reprend le, justement, c'est intéressant de voir pourquoi ça bascule précisément. Parce que Jésus, si on prend ce que Pierre déclare très peu de temps avant, donc dans Luc 22, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ça, déjà, c'est très beau, parce qu'il prévoit déjà qu'il va trahir et qu'il va revenir. Celui-ci lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et alors Jésus lui dit, mais je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par trois fois nié me connaître. Non, il n'y a pas peur d'aller en prison et de mourir. Donc c'est pas le problème. Hein?
C'est ce qu'on dit.
C'est ce que vous pensez.
Avec le Seigneur, on lui... quand, à 12 ans, déjà, on promettait la
gamme. Là, c'est dans les heures qui précèdent. Ils savent très bien qu'on va à l'affrontement et que ça peut... ça va, ils s'en font pas... Mais pourquoi, pourquoi juste après, au moment où il faudrait être là, ils ne seront plus à la croix, alors que juste avant, ils avaient dit qu'ils y seraient? Il y a quand même quelque chose qui se passe.
Pierre, il y a eu le reniement de Pierre, peut-être ça l'a...
Oui, non, mais pourquoi Pierre renie?
Il a peur devant la foule.
La peur devant la foule, moi je ne crois pas que ce soit ça.
Peut-être que Pierre renie parce qu'il a pris conscience que s'il se fait arrêter et tuer... pas faire ce que le Christ lui demandera de faire.
Oui. Peut-être, oui. Non, c'est pourquoi pas. Et c'est important de dire comment on le... Oui, oui.
Pour rester... À...
Oui.
Pour,
oui, peut-être qu'il pense que ça ne peut pas fonctionner.
Si je meurs, je me fais arrêter aussi.
Ça n'a pas de sens.
Les autres apôtres seront seuls.
Et oui.
Peut-être besoin de moi pour...
Oui, c'est possible, puisqu'il sait qu'il a une responsabilité. Alors, pourquoi pas? Moi, je pense aussi que précisément, il va se passer quelque chose entre, dans les heures, entre ce moment où il dit qu'il va pouvoir donner sa vie et le fait qu'il ne puisse pas la donner. Il se passe un événement très précis qui va faire basculer Pierre et tout le monde. L'arrestation, mais qui se passe d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'arrestation? Vous sortez vos bibles, vous regardez. Mais oui, c'est ça le grand truc. C'est l'histoire de l'épée. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir l'épée à la main, aller en prison, se battre, parce qu'ils pensent encore que Jésus a la capacité de gagner le combat, même s'ils ne sont pas nombreux, même s'ils n'ont que deux épées, parce qu'on voit, ils font en compte, il y a deux épées, et Jésus dit, ça suffit, ah bon, bah, avec deux épées, on va y arriver, c'est formidable, quoi. C'est vraiment l'épée d'Arthur. Hein. Voilà. Donc, ils pensent encore qu'ils vont pouvoir gagner le combat contre toute une armée parce que Jésus est là, qu'il est puissant. Ils sont encore dans l'idée de la puissance. une puissance de fou, puisqu'il n'y a pas, ils voient bien qu'ils n'ont que deux épées, et qu'ils sont un petit groupe, et qu'ils risquent d'être affrontés à tout un monde. Et puis ils pensent peut-être que la foule qui est derrière va suivre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus va complètement les désarmer, c'est le cas de le dire, en disant, mais voilà, rengaine ton épée, et en plus, dans un des évangiles, dans Luc, le médecin, il va aller jusqu'à guérir celui qui est blessé. Mais c'est quoi ce truc? Mais où va-t-on? Où va-t-on? Dans quel état sommes-nous? Donc ils ne peuvent pas le suivre, parce que s'ils le suivent à ce moment-là, ils se suicident avec lui. Et ils sont prêts à se battre pour éventuellement gagner avec Jésus, mais pas pour mourir avec lui. Enfin, ils veulent bien mourir si Jésus gagne. Ils sont prêts à donner leur vie pour Jésus, mais il faut que Jésus lui passe. Donc, c'est pas qu'ils n'aiment pas Jésus, mais ils l'aiment d'une certaine manière qui n'est pas conforme au projet du Christ. Le projet du Christ, c'est d'établir le royaume par la faiblesse et par l'amour, non pas par la force et les épées. Donc, ça va être tout le problème de Pierre tout au long de l'évangile. C'est pas qu'il n'a pas eu bon cœur, ce cher Pierre. C'est pas qu'il n'est pas généreux, loin de là, et qu'il a. Je pense pas que ce soit d'abord la peur son problème. C'est le non-sens. Ça n'a pas de sens de mourir dans la faiblesse, parce que ça ne fait pas aboutir les affaires. Vous voyez, c'est pas un peureux. C'est quelqu'un qui veut comprendre. Qui veut comprendre le sens de sa vie et du projet.
Alors ça veut dire qu'il n'avait rien compris pendant 3 ans.
Mais il va continuer à rien comprendre, hein. Voilà. Même après.
Même après la résurrection.
Ouais, ouais. Même après la résurrection. C'est maintenant que le royaume va être établi, au moment de avant l'ascension. Il dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume? Donc Pierre ne comprend rien de A à Z. Bon. Il est devant un mystère. Mais il croit toujours qu'il comprend. Alors, c'est un problème, ça. Voilà. Vous voyez, par exemple, on va prendre Matthieu 14, c'est la marche sur les eaux. Alors, les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés. C'est un fantôme, disait-il. Et, pris de peur, se mirent à crier. Mais, aussitôt, Jésus leur parla. Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. Sur quoi Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. Vous voyez, pas tellement pris par la peur. Hein. Bon. Mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà, il avance. Viens, dit Jésus, et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais voyant le vent, il prit peur et commença à couler. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il pense toujours qu'il va y arriver, je dirais, par ses propres moyens, ou parce que Jésus va faire des choses très extraordinaires, il va... Voilà. Il est dans une vision des choses magique, si on veut, mais pas de foi. Donc il est dans la puissance, il est toujours dans la puissance. Quand il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, ça aussi c'est extrêmement fort et ça donne de l'éclairage sur tout le reste. Quand il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, dans Matthieu 16... Pour vous, qui suis-je? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette réponse t'est venue non pas de la chair et du sang, mais de mon Père, qui est dans les cieux. Donc, il lui dit, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et juste après, Jésus commence à leur parler de sa mort. Il commence à dire qu'il a fallu s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres, des scribes, être tué, le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le morigéner en lui disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu me fais obstacle. » Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, il y a chez Pierre tout le temps, il s'est installé, si vous voulez, dans une vision très humaine, très spirituelle aussi, si on veut, de Jésus, mais d'une fausse spiritualité pour Jésus, qui est que ben avec Jésus, on va tout pouvoir, ici et maintenant, tout de suite, et que tout va se réaliser selon nos plans. Donc il s'est installé dans une illusion. Je ne sais pas si c'est... On parlait hier de fantasmes, de tout ça. Bon, il est dans l'idée que les choses vont se réaliser de la manière dont tout le monde le dit. C'est-à-dire le Messie va venir et tout va changer ici et maintenant. Il n'y a qu'à suivre et ça va se faire. Et ce n'est pas possible que ça se passe autrement. Ils sont installés dans une sécurité imaginaire. C'est-à-dire une sécurité pour l'aujourd'hui. Et ça ne peut pas être autrement que ce qui est dans leur imaginaire. Quoi. Voilà. Donc, en permanence, Jésus va essayer de les faire sortir de ça pour les amener vers ailleurs, les amener en chemin. C'est-à-dire les faire sortir, leur dire oui, il va se passer quelque chose, mais pas de la manière dont vous imaginez, dont le monde imagine que la nouveauté doit se faire. Il y a une déstabilisation permanente que Jésus va opérer. Ils ont toujours envie de bien cerner le problème, si vous voulez, de se dire, on va faire comme ci, on va faire comme ça, ça va arriver là. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Et Jésus est sur une autre ligne. Jésus veut les emmener à se dire, voilà, au cœur de votre vie telle qu'elle est, non pas telle que vous la rêveriez, mais au cœur de votre vie telle qu'elle est, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à rêver sa vie, mais à l'habiter, à la vivre. Et au cœur de la faiblesse, tout être humain est amené à un moment ou à un autre à expérimenter la faiblesse. Au cœur de la faiblesse, c'est-à-dire du réel, va se passer quelque chose de nouveau qui m'emmène vers un ailleurs. Vous connaissez, je crois, Etty Ilsoum, cette jeune juive qui est morte dans les camps de concentration 43, qui a fait une expérience de Dieu extrêmement profonde en 2 ans, dans l'accompagnement avec Julius Speer, qui va découvrir Dieu et qui va découvrir vraiment faire une expérience très profonde de Dieu, à la jointure entre le christianisme, le judaïsme et le christianisme. Et Etty Ilsoum, tout son truc, ça va être d'accueillir le réel. Mais quel réel? Le réel des camps de la mort, le réel du désastre total, le réel des éclatements des familles. Accueillir ça et accueillir la présence de Dieu dans ce réel. Voilà, tout son chemin, c'est de faire la synthèse entre le consentement à ce qui se passe et ce qui est, et l'habitation de Dieu à l'intérieur de moi-même que je dois protéger plus que tout, parce que ça me permet d'habiter ce réel pour le dépasser et aller au-delà. Donc c'est tout le contraire d'une fuite. À un moment, elle est dans un camp, et il y a un arc-en-ciel, et elle a les pieds dans la boue, et elle est prise d'une joie extraordinaire quand elle voit cet arc-en-ciel qui lui rappelle la présence de cet amour, de ce Dieu. Et elle pleure de joie. Elle rentre dans le baraquement et les femmes se la voient toutes rayonnantes. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Puis elle dit, je ne peux pas leur raconter que j'ai vu un arc-en-ciel et ça me fait penser à Dieu. Elles vont prendre pour une folle. Alors elle dit, oh, il paraît que les Allemands et les Italiens, il se passe quelque chose. Elle invente un truc qui n'a ni queue ni tête parce qu'elle ne peut pas, elle dit, je ne peux pas raconter ça. Ça ne peut pas se dire, c'est indicible. Comment moi je peux être joyeuse dans le camp de la mort? C'est un scandale. Enfin, là, elle n'est pas encore un camp de transit. Et elle a cette prière en juillet 42. Mon Dieu, tu ne peux rien faire pour moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer le cours des choses. Il y a les nazis, il y a les camps, on va partir, tout ça. Bon, tu ne peux rien faire pour moi, mais moi, je peux faire quelque chose pour toi. Je peux te protéger en moi-même. Et te protégeant moi-même, enfin, protégeant moi-même l'abri, ce lieu où tu demeures, je m'aide moi-même. C'est-à-dire que tu ne vas rien changer de ce qui se passe à l'extérieur, mais si je fais pour toi cette protection de ta présence en moi, je vais moi-même continuer à vivre et aller de l'avant et à grandir. Donc ça renverse un peu, hein. Nous, on voudrait toujours que ce soit l'extérieur qui change, c'est-à-dire que les conditions extérieures changent. Moi, faut pas le répéter, mais je suis exorciste de deux diocèses. J'étais avant exorciste du diocèse de Soissons, maintenant je suis exorciste pour la Charente et Charente-Maritime. Et en permanence, les gens viennent nous demander que les choses extérieures changent, que les bêtes arrêtent de mourir, qu'on arrête d'avoir des accidents, qu'on ne soit plus malade, qu'on ci, qu'on ça, et ça. Donc en permanence, on nous dit, faites quelque chose parce que ça ne peut pas continuer notre affaire. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Je ne suis pas un magicien. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'intervention de Dieu n'est pas sur les causes extérieures. L'intervention de Dieu, c'est sur la force qu'il met en moi, par sa présence, pour vivre ce que j'ai à vivre dans le monde tel qu'il est et dans ma vie telle qu'elle est. Donc, tout change, mais de l'intérieur. On parlait de la liberté intérieure. Et c'est l'habitation intérieure de Dieu en moi, c'est-à-dire cette présence d'amour qui m'accompagne sans cesse, qui change tout. On voudrait construire notre vie telle qu'on l'imagine. Mais ça, c'est bidon. Excusez-moi, mais on peut proposer des choses. Mais en fait, ce qui va la construire, c'est le contact entre moi et le réel. Et après, je ne vais pas subir ce réel, mais je vais, comme Pierre, comme les apôtres, tout ça après, comprendre que je peux aller de l'avant et transformer ce réel en l'habitant. Bon, Dieu habite en moi et moi j'habite dans le monde. Et donc je marche, je chemine, et ça s'invente. J'invente, je crée avec Dieu. Parce que Dieu est mon compagnon de chemin. Voilà comment ça se passe. C'est le pape qui a fait un très beau... Moi, j'aime beaucoup ce pape-là, j'avoue que je suis un... Je le considère comme un ami. Je ne suis pas un fanatique, enfin, je veux dire, dans le sens, un groupiste du pape François, parce que je ne suis pas pape polâtre, mais je trouve que c'est un ami. Et je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir comme ami le pape, surtout quand on ne le rencontrera jamais. Voilà. Bon. Mais même si je le rencontre, je n'aurai rien à lui dire de précis, parce qu'il est assez occupé et je ne vais pas l'embêter. Mais quelqu'un m'a dit, mais si on le rencontre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il écrit ceci, dans ce texte qui est sorti cette semaine. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige. C'est-à-dire, vous voyez, on est devant quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas. Comme Pierre, voilà, Christ se laisse arrêter, il guérit, il nous demande de ne pas nous battre, il guérit celui qui vient pour nous arrêter et nous tuer. Ça donne le vertige. C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Voilà. Ça me fait penser, cette image de la mer, on est le 1er décembre, là, on va évoquer tout à l'heure aussi la journée mondiale contre le sida. J'avais un ami qui avait écrit un texte sur le jour de l'annonce de sa séropositivité, et il comparait ça à... Voilà, comme une vague, vous êtes au bord de la mer, il y a une vague qui arrive sur vous, qui vous renverse, vous avez des yeux pleins d'eau salée, la bouche, tout ça, et il dit, vous êtes là, complètement assommé, et vous ne savez plus, vous vous sentez absolument seul. C'est un peu ça que décrit le pape. Tout d'un coup, on est devant quelque chose où on n'y comprend rien, et ça donne le vertige. Et il dit, moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Il y a plusieurs fois, il dit qu'il a été assommé par les choses, qu'il n'a rien compris à ce qui se passait. Et il continue, toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'esprit en renonçant à vouloir calculer, à contrôler tout et de permettre à l'esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter dans la nuit, de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque, à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. Voilà. Donc, à un moment, on est tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à l'inconnu. Et en même temps, c'est le moment où vous êtes amené à dire, ben, ça me dépasse. Quelque chose est en jeu là. il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il y a du partage, il y a de la solidarité entre nous, on prie les uns pour les autres, on sait qu'on peut compter les uns pour les autres, ça suffit. Mais bon, même si on ne peut plus faire tout ce qu'on voudrait, c'est pas grave. C'est beau, il y a du dialogue aussi. Et vous cheminez. Quand on veut tout cadrer, quand on veut tout cerner, quand on veut tout dominer, on ne vit plus. On s'est enfermé dans des carcans. Et je vois le nombre de communautés religieuses en France qui sont en train de mourir. C'est des communautés brillantes, formidables. Moyenne d'âge, 78 ans, 75 ans, 61 ans. C'est très bien. C'est fini. C'est fini. Ils ont voulu tellement mettre la main sur l'esprit qu'il y a plus, ça ne vit plus. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est d'essayer d'habiter l'humain et de se laisser au cœur de l'humain bouger. C'est ça tout le problème. Vous voyez, à chaque fois, donc si je reviens à Pierre, par exemple, il y a une chose que je trouve touchante, c'est sur le pardon entre frères. Vous voyez avec quel rapport. Il dit ceci, le pardon des offenses. Alors Pierre, s'avançant, lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » 7 fois. Jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est-à-dire que Pierre, il voudrait bien cerner le problème, si vous voulez. Donner des choses, mais ah, c'est quand même, je veux bien pardonner, mais on va limiter quand même. Hein. Et Pierre, et Jésus, à chaque fois, va lui dire, ne te bloque pas, ne fixe pas le cadre, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas de cadre, je veux la vie. Je veux qu'on aille au-delà, toujours au-delà. Jésus n'accepte pas de se laisser enfermer dans des choses qui seraient pour nous sécurisantes, faussement sécurisantes, dans le sens où elle nous dit ben, « je vais aller jusque-là et là c'est bon ». Il n'y a pas de « jusque-là, c'est bon ». Ça n'existe pas. C'est ouvert en permanence. Et c'est, ça se joue dans la finesse, l'extrême finesse. Il y a des gens, je confesse beaucoup, je passe beaucoup d'heures, je ne suis pas curé d'Ars, mais je passe beaucoup d'heures au confessionnal, c'est parce que ça me convient. Mais il y a souvent des gens âgés qui viennent se confesser, qui me disent, ah ben vous savez maintenant, moi je ne peux rien faire, je ne peux plus manger, je ne peux plus baiser, je ne peux plus rien faire, donc je ne pêche pas. Ah bon, je dis, ça suffit de ne pas pouvoir pour ne pas être pécheur. Il semble que vous êtes amené à aller au-delà. C'est pas juste ne pas faire, c'est faire. C'est-à-dire, il y a des actes d'amour. Peut-être que vous avez une infirmière qui vous casse les pieds, que vous ne supportez pas, peut-être qu'il y a des gens qui vous énervent, peut-être que vous n'avez plus de patience. C'est là que ça se joue. C'est pas le fait que vous mangez, vous n'en pifriez pas, ou juste comme ça. Je ne dis pas ça comme ça. Mais ça se joue dans la finesse. Et il n'y a pas de limite. Cette semaine, j'ai été très frappé. J'ai reçu un monsieur, il m'a bouleversé, un monsieur âgé, qui a dû être scientifique, je crois, une fois, je lui demande, la prochaine fois, je le verrai. Et il me dit, mon épouse a une maladie d'Alzheimer. C'est très avancé. Je connais son épouse, effectivement, c'est avancé. Elle est maintenant en institution, il la voit chaque jour, ils peuvent encore se promener, tout ça. Et il m'a dit, vous voyez, j'ai toujours l'esprit qui fonctionne. Et j'ai tendance toujours à m'énerver sur les choses. Par exemple, il m'a dit, je trouve idiot l'histoire des priorités à droite, parce que spontanément, on regarde à gauche, et la voiture et la priorité à droite, c'est pas logique. Donc je suis énervé contre ceux qui ont instauré les priorités à droite. Ça m'énerve. Je me promène avec ma femme, je lui dis rien, bien entendu. Elle tient mon bras, on marche comme on peut. Et je pense à ça, je m'énerve intérieurement contre la priorité à droite, en bas, au monde. Et ma femme prend peur. Ça l'angoisse. Elle me dit, j'ai peur. J'ai peur, je suis seul, j'ai peur. Parce qu'il n'y est plus, il n'est plus avec elle. Il est dans son histoire de priorité à droite et il s'énerve. Et elle sent qu'il n'est plus là. Et elle a peur. Alors à ce moment-là, il rentre en lui-même, il se rappelle que sa femme est là, il ne pense plus à la priorité à droite, et il pense à son épouse. Et à un moment, elle s'apaise, Et elle lui dit, je t'aime. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est important, le pape le dit à un moment, c'est pas les idées qui sont importantes. Enfin, je veux dire, la plus importante que les idées, il y a la réalité. C'est-à-dire à habiter ma vie. L'habiter, mais l'habiter vraiment. Il y a un penseur anti-religion, mais qui est merveilleux, c'est Krishnamurti. Vous connaissez peut-être, qui est un mystique anti-religieux. Et qui dit, mais on passe son temps à ne pas voir le lilas qui fleurit, à entendre les clochettes des enfants avec leur vélo sur la route, sur un chariot, parce que c'est en Inde, tout ça, des gens, un couple qui rit. Voilà. On est pris dans nos idées, dans nos pensées, y compris spirituelles, et on est en dehors du réel. On ne voit plus rien. On est dans nos histoires. Dans notre volonté quelquefois de perfection, qui fait qu'on n'habite plus la vie.